Madame et messieurs les députés, mesdames et messieurs les observateurs, je vous salue. Je me permets encore de vous présenter mes meilleurs voeux pour l'année 1977. Un seul député s'est excusé pour la session de ce jour. Il s'agit du député Pierre Christ. Nous passons sans plus tarder à l'ordre du jour de notre session et tout d'abord le point 1, communication. À ce sujet, un seul mot à dire, néant. Deuxième point de l'ordre du jour, constitution jurassienne, et tout d'abord la section l'école, les articles 30 à 38. En ce qui concerne l'article 30, la commission ne propose aucune modification. La discussion est ouverte. Opposition acceptée. Article 30 bis. Le rapporteur de la commission, Monsieur Cerf.
Monsieur le Président, Madame, Messieurs, l'article 30 bis a été accepté en première lecture à la suite de plus de 40 interventions émanant de groupes de députés et s'exprimant à titre personnel et bien entendu de la Commission. Si 32 députés contre 8 ont finalement donné leur accord au texte de la Commission, tous n'avaient pas les mêmes motivations, notamment quant à la faculté de confier les enfants à un précepteur au lieu de les faire suivre l'école publique, officielle ou privée. La Commission s'est à nouveau penchée sur cet article. Elle admet à l'unanimité que le préceptorat peut être autorisé à titre exceptionnel et en conformité avec la loi. La liberté des parents est ainsi sauvegardée, mais le seul bien de l'enfant doit dicter l'attitude à adopter. S'agissant du libellé, la commission n'estime pas opportun de le modifier. De nombreuses propositions ont été examinées puis écartées. L'une est reprise aujourd'hui par le PCSI, l'école est obligatoire. Sans reprendre toute l'argumentation développée en première lecture, la commission combat cette proposition. L'école en marche, l'école romande, changer l'école, le concept école est admis de chacun. Il a tant fait école que nous traitons présentement du chapitre « École des tâches de l'État ». École et non pas instruction. N'avons-nous pas d'ailleurs défini clairement la mission de l'école? La phrase « L'instruction est obligatoire » venant, après la définition précitée, voudrait-elle dire que seule l'instruction est obligatoire, alors que l'éducation est à bien plaire? Nous ne poursuivrons pas au-delà l'argumentation de la Commission. Toutefois, nous tenons encore quelques munitions à votre disposition. Statu quo donc, en ce qui concerne le libellé, faculté de confier ses enfants à un précepteur dans certains cas précis, en ce qui concerne l'interprétation, telles sont les conclusions de la Commission.
La discussion est ouverte. Monsieur Philippe.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, le groupe Chrétien Social Indépendant revient sur sa proposition de première lecture, à savoir de remplacer l'école est obligatoire par l'instruction est obligatoire. J'ai entendu l'argumentation de M. Serre tout à l'heure contre cette idée. Nous n'allons pas développer en deuxième lecture les arguments évoqués par notre porte-parole, M. Marcel Bréchet, en première lecture. Il semble d'ailleurs que les partisans de la première de ces deux formulations soient le nombre, et notre intervention ne serait alors qu'un baroud d'honneur sur un point qui ne porte pas atteinte à la doctrine de notre parti. Je voudrais cependant attirer l'attention de l'Assemblée sur l'ambiguïté provoquée par la juxtaposition des articles 30 bis, que nous discutons actuellement, l'école est obligatoire, et 32 alinéa 1, l'école maternelle et l'école obligatoire incombent à l'État et aux communes. Alors quoi ? Si l'école est obligatoire et qu'elle incombe à l'État et aux communes, alors l'école maternelle est comprise dans l'école obligatoire. Ou bien. Mais ce n'est pas précisément ce qu'a voulu l'Assemblée en première lecture. Mais toutes les écoles, professionnelles et autres, seraient aussi obligatoires. Ce qui n'est pas le cas, vous le savez bien. Poussons le raisonnement plus loin jusqu'à l'absurde. L'école étant obligatoire et incombante à l'État et aux communes, il n'y a plus de place alors pour l'école privée. Je ne crois pas que ce soit l'avis de la majorité ici. Non, voyez-vous, il y a ambiguïté parce que la notion d'école à l'article 30 bis a un double sens. Dans le chapitre « Tâches de l'État », sous-titre « École », la Constitution charge l'État de la responsabilité de l'instruction et par là même, on exige de tout citoyen un minimum d'instruction. Ce qu'on appelle dans le sens commun, dans le public, tout le monde comprend cette expression, l'école obligatoire, c'est-à-dire les 9 années chez nous. Cette instruction est à faire dans l'école publique, que l'État organise et contrôle, voir l'article 31 alinéa 1, ou dans un établissement équivalent qu'il surveille, article 36. Aux deux extrémités de ce temps d'école obligatoire, la grande école, comme l'appellent les gosses, il y a la maternelle d'un côté et l'école professionnelle qui, elles, ne sont pas obligatoires pour les jeunes, mais que l'État et les communes sont obligés de mettre à disposition des citoyens. Si nous disons donc à l'article 30 bis, l'instruction est obligatoire, ce que nous vous proposons de mettre, l'ambiguïté sera levée, tout le monde aura compris, le sens sera plus clair, et à l'article 32 alinéa 1, le concept d'école obligatoire ce sera simplement celui du sens commun, sans qu'il soit parasité par l'article 30 bis.
La discussion est ouverte. La discussion n'est plus demandée. Est-ce que la commission désire encore intervenir ? Ça n'est pas le cas. Nous sommes, madame, messieurs, en présence de deux propositions, à savoir celle de la commission l'école est obligatoire, le texte que nous avions adopté en première lecture, et celle présentée par le Parti chrétien social indépendant, l'instruction est obligatoire. Nous allons opposer ces deux propositions. Les membres de notre Assemblée qui sont en faveur de la proposition présentée par le Parti chrétien social indépendant le manifestent en levant la main. Les membres de notre Assemblée qui sont en faveur de la proposition de la Commission le manifestent en levant la main. Par 37 voix contre 8, vous avez accepté la proposition de la Commission. Article 31, premier alinéa, Commission inchangée. Discussion. Opposition acceptée. Article 31, premier alinéa, 1 bis, Commission, Monsieur Gury.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, vous avez un nouvel alinéa 1 bis à l'article 31 qui vous est proposé par la Commission. Le texte proposé est tout simplement repris de l'article 32, de l'article suivant, qui prévoit la répartition des tâches entre les diverses écoles. L'accès garanti à l'école maternelle ne fait pas partie de cette répartition. Il s'agit d'un principe général qui doit figurer ici à l'article 31. Logiquement, la Commission unanime vous propose donc de l'inscrire comme deuxième alinéa de cet article. Elle vous demande aussi de supprimer à chacun que nous avions accepté en première lecture. C'est la loi qui définira à quel âge les enfants se rendront à l'école et ces mots sont inutiles et superflus.
Voilà, la discussion est ouverte. Je ne donne pas tout de suite la parole au représentant du Parti libéral radical parce que sa proposition n'est en tout cas pas similaire à la proposition de la Commission. Alors nous allons d'abord traiter la proposition de la Commission, ensuite la proposition du Parti libéral radical. Sur la proposition de la Commission, la discussion est toujours ouverte. Ça n'est pas le cas. Les membres de notre Assemblée qui sont en faveur de la proposition de la Commission le manifestent en levant la main. Avis contraire. Ça n'est pas le cas. Je donne maintenant la parole au rapporteur du Parti libéral radical, M. Chaler Jean-Claude.
Monsieur le Président, Madame et Messieurs, J'interviens une nouvelle fois au nom de mon groupe afin de revenir à la proposition qu'il avait formulée en première lecture, proposition visant à spécifier dans notre charte fondamentale le caractère non confessionnel de l'école publique. Permettez-moi de rappeler au passage certaines idées émises alors par mon ami David Stucki. Notre groupe estime que dans le domaine de l'enseignement, tout est question de mesure, de bon sens et de compréhension réciproque. Par conséquent, il ne s'agit pas de réveiller certaines passions du XIXe siècle. Dans l'affirmation du caractère non confessionnel de l'école publique, il existe plusieurs notions solidaires. L'ordre temporel a sa substance propre, l'État n'est pas juge du spirituel et n'est pas l'organe de l'expression de la communauté nationale sur ce plan. Enfin, les citoyens ne sont pas comptables devant l'État de leurs options spirituelles personnelles. C'est dans cet esprit qui se veut objectif et non teinté d'un certain anticléricalisme que je vous invite, Madame et Messieurs les députés, à souscrire à la proposition que vous fait mon groupe. Certes, on nous dira que l'alinéa 3 de l'article dont nous discutons garantit la liberté de conscience, de pensée et de religion. À cela, nous répondrons que cet alinéa ne précise pas d'emblée le caractère non confessionnel de l'école publique, mais qu'il conserve sa place car il est complémentaire de notre proposition. Pour plus de clarté, je répète donc notre proposition. Alinéa 1 terre, je vous prie de corriger, l'école publique est non confessionnelle.
Voilà, nous voilà en présence d'une proposition. Je ne sais pas si Monsieur Chaler a raison de dire que ça devrait être une proposition inter pour la systématique. Si la proposition du Parti libéral radical était acceptée, il me semble qu'elle devrait figurer avant la proposition 1 bis telle que venons d'adopter sur proposition de la Commission. Monsieur Boya a demandé la parole, ensuite Monsieur Béglin.
Je m'exprime ici au nom du groupe démocrate chrétien. Je constate tout d'abord que M. Chaler n'a pas énoncé d'arguments nouveaux par rapport à ceux qu'avait développé ici M. le Dr Stucki. Je ne puis toutefois m'empêcher de rappeler que le Parti démocrate chrétien a clairement exposé sa position au sujet du statut juridique des institutions d'enseignement existantes. En première lecture, c'est Maître Saucy qui s'était exprimé au nom du groupe démocrate chrétien, relatant notamment la position de notre parti, position rendue publique par un article de presse paru dans les journaux locaux et en particulier dans le Démocrate du 5-12-1975. Nous n'envisageons nullement de faire du Collège Saint-Charles une institution de droit public. Nous le répétons ici, puisque il semble que l'on n'ait pas compris d'une manière suffisante nos intentions. À notre avis, le problème des institutions d'enseignement était résolu à satisfaction en première lecture. Nous avions adopté un article 31, alinéa 3, qui parle du respect de la liberté de pensée, de conscience et de religion, et nous sommes tout à fait satisfaits de voir que la Commission a formulé ce principe en termes positifs plutôt que négatifs, comme c'était le cas en première lecture. L'article 35, concernant les écoles privées, nous donnait également pleinement satisfaction. Nous ne pouvons pas nous défaire de l'idée que le postulat développé par M. Chaler est un postulat du XIXe siècle qui a eu passablement de remous dans le Jura en particulier. Au XIXe siècle, en effet, on disait que l'école était non confessionnelle. Aujourd'hui, on devrait dire que l'école, qu'elle soit publique ou privée, est un lieu de rencontre, est un lieu où l'on pratique la compréhension réciproque, pour reprendre les termes mêmes de l'interpellateur qui m'a précédé à cette tribune, est un lieu où l'on pratique l'œcuménisme au sens large comme au sens religieux du terme. Nous n'estimons pas nécessaire de préciser cela dans la Constitution, mais vous pouvez être assuré que les enseignants de mon parti, que les enseignants qui œuvrent dans les écoles privées sont parfaitement animés de ces principes. Cela devrait suffire comme garantie. Vous avez déjà pu vous en rendre compte vous-même. Je suis moi-même un produit de ces écoles qu'on appelle certaines fois non conventionnelles, et je puis vous dire que dans ces écoles, on pratique véritablement ce sens de la compréhension réciproque et qu'il n'y a pas lieu d'apporter de modifications, sinon cette amélioration à l'article 31 alinéa 3 en deuxième lecture par rapport à ce que nous avions adopté en première lecture. C'est la raison pour laquelle, au nom de mon groupe, je vous propose de rejeter purement et simplement la proposition du groupe radical.
Monsieur Béglin.
Mesdames et messieurs, tout récemment, sous les auspices de l'émulation, l'historien André Chèvre a donné une conférence saisissante sur le Kulturkampf, cette persécution que le pouvoir bernois infligea aux Jurassiens il y a juste 100 ans. Plus encore que les emprisonnements, les sévices, l'occupation militaire, les contraintes exercées sur la foi, c'est bien la charge passionnelle infusée dans les mots qui, de façon durable, a porté le plus grand préjudice à notre patrie. Quand certains vocabulaires aient perdu rapidement toute portée pratique, cela n'a pas empêché ce même vocabulaire de venir hanter tout le XXe siècle au niveau des esprits simples pour la croyance et au niveau politique pour l'exploitation maligne. Le scrutin fédéral sur la suppression de l'interdiction des jésuites et la campagne d'ores et déjà engagée pour ou contre l'adjonction du mot jura à l'article 1er de la Constitution suisse nous ont apporté et nous prodigueront encore une ample moisson de preuves et de symptômes. Les termes « école confessionnelle » appartiennent à ce monde de préjugés et de phobies. Dès 1947, hors de toute vraisemblance, ils ont été dressés comme des épouvantails face aux citoyens qui, pour sauver l'identité et le patrimoine du Jura, demandaient l'abolition de la tutelle bernoise. Il fut un temps où cet argument l'emportait sur tous les autres dans la panoplie de nos adversaires. Il a fallu, mesdames et messieurs, pour faire renaître l'État jurassien, passer à travers ces fantasmes et marcher fermement vers la lumière. Et voici qu'aujourd'hui, alors que nous sommes entre nous, dans nos meubles, le groupe libéral radical propose pour la seconde fois que l'école soit déclarée non confessionnelle. Nous siégeons au sein d'une assemblée parlementaire et bien entendu, chacun peut dire ou demander ce qu'il veut. Le corollaire, c'est le droit que nous avons de porter des jugements sur les propositions qui nous sont faites. Or, celle dont je parle est néfaste dans la mesure où elle feint de vouloir empêcher une chose que personne n'a l'intention de réaliser. Alors, pourquoi cette insistance? Pourquoi donner aux ennemis du Jura, ceux de l'extérieur, un aliment supplémentaire? Je vous demande de maintenir l'article adopté en première lecture.
Discussion toujours ouverte, Monsieur Gudel.
Monsieur le Président, Madame, Messieurs, l'école publique est non confessionnelle. Une proposition semblable vous avait été faite en première lecture, vous vous en souvenez. Et on s'était alors opposé à cet amendement en relevant que l'école publique non confessionnelle était d'une part garantie par les dispositions fédérales et d'autre part en vertu de l'alinéa 3 de l'article 31 de notre nouvelle Constitution. Je vous propose aujourd'hui pourtant d'accepter l'amendement du PLR. Et cela essentiellement pour deux raisons. Malgré les dispositions fédérales et cantonales, nous connaissons plusieurs cantons suisses où le principe de l'école publique non confessionnelle est loin, parfois même très loin, d'être appliqué. J'ai moi-même vécu en 1973, en tant que membre de la commission scolaire primaire d'une ville romande, que la candidature d'une jeune enseignante n'ait pas été retenue pour la simple raison que la jeune femme appartenait à l'autre confession et qu'elle n'aurait su, selon certains, enseigner convenablement la religion prévue dans le programme scolaire. On me dira peut-être que dans le Jura, l'école publique non confessionnelle est chose acquise. Je n'en disconviens pas. Mais l'expérience le prouve. Au regard d'ensemble, il s'agit de préserver et de garantir ici aussi chez nous l'acquis. Et parfois, je le dis en tant qu'ecclésiastique, nous avons besoin, nous ecclésiastiques, que vous, politiciens, vous donniez des précisions très précises pour nous préserver de nos fautes à nous aussi. Une seconde raison devrait nous inciter à accepter l'amendement proposé. Vous savez qu'actuellement encore la frontière entre la partie nord et la partie sud du Jura suit malheureusement au mètre près la limite confessionnelle traditionnelle. Un refus de l'amendement qu'on nous propose sera, il n'y a pas de doute, immédiatement mal interprété dans le sud. On dira bien sûr à tort, je suis parfaitement d'accord, à tort, que le Nord cherche à réintroduire l'école confessionnelle. On le dira. Je suis convaincu, quant à moi, que personne d'entre nous ne nourrit cette arrière-pensée. Mais c'est dire aussi que chacun peut sans mal et sans se contredire accepter la proposition qui nous est faite. Et ce faisant, nous éviterons, je crois, que le fossé malheureusement creusé entre le nord et le sud ne s'approfondisse. Ce faisant, nous travaillerons, j'en suis certain, à l'œuvre qui nous est chère à tous, à la paix dans notre Jura. Je vous prie donc d'accepter l'amendement que le Parti radical vous propose pour les deux raisons que je viens d'évoquer. Merci de m'avoir écouté.
Discussion toujours ouverte, M. Frenichou, ensuite M. Huglet. Le Parti radical vient de nous démontrer une fois encore que, avec insistance, qu'il regarde l'avenir dans son rétroviseur. La proposition radicale vient tout droit de l'esprit du 19e, on l'a dit, et les Jurassiens ont énormément souffert de cet état d'esprit. Je m'associe donc aux propos de Maître Boyat pour vous demander de rejeter
cette proposition très fermement. Nous sommes ici pour proposer au peuple jurassien une constitution de notre temps. J'ajoute encore que je regrette fort d'avoir entendu de la part du pasteur Gudel les paroles que nous venons d'entendre.
Monsieur Hugues.
Monsieur le Président, Madame, Messieurs, Monsieur le pasteur Gudel s'est permis de faire des allusions à des expériences personnelles. Qu'il me soit permis très brièvement de faire aussi moi une allusion à une expérience personnelle. De confession réformée, j'ai été nommé instituteur dans une localité qui est au 4/5 de confession catholique romaine, ce qui ne m'a pas empêché d'être élu instituteur, ensuite maire de cette commune, et ce qui n'a jamais entraîné d'objection de qui que ce soit pour me confier l'enseignement des leçons de religion dans ma classe. Ceci dit, je voudrais aussi certifier une chose, c'est que les Jurassiens du Sud qui n'ont pas perdu leur âme et qui, dans leur immense majorité, sont de confession réformée comme moi, font certainement confiance à notre Assemblée et au peuple du futur canton du Jura qui a toujours su faire preuve de tolérance et d'esprit fraternel.
La discussion est toujours ouverte, Monsieur Ethic.
Oui, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, que de discussion au sujet d'une proposition faite par le groupe radical. Nous agissons, comme le dit si souvent le docteur Stucki, comme des constituants libres et responsables. Vous êtes en présence d'une proposition, acceptez-la, refusez-la. Il n'y a pas 36 manières de la refuser, on vote contre, un point, c'est tout. Évidemment, Monsieur Béglin, lorsque vous dites que c'est la charge passionnelle infusée dans les mots qui a fait le plus de mal à ce pays, vous parlez en connaisseur. Quant au reste, Madame, Messieurs, je vous laisse le soin d'apprécier et de juger. Monsieur Béglin nous disait tout à l'heure que notre proposition visait à fournir des arguments supplémentaires aux ennemis du Jura. Vous avez, Monsieur Béglin, parlé de fantasmes. Effectivement, il y a là, dans de telles déclarations, certains fantasmes.
Discussion toujours ouverte. La discussion n'est plus demandée. Est-ce que la commission désire s'exprimer, Monsieur Gury?
La commission 2 n'a eu que tardivement connaissance de la proposition du PLR. Elle n'a fait hier dans sa séance qu'effleurer le sujet et sa majorité a maintenu sa position de la première lecture. Selon elle, l'alinéa 3 de l'article 31 qu'on a rappelé à cette tribune, l'école publique ne doit porter atteinte à la liberté de pensée, de conscience et de religion, suffit à donner toutes les garanties quant à la neutralité de l'école en matière confessionnelle.
Voilà, Madame, Messieurs, nous allons passer aux voix. Étant donné que c'est une proposition qui n'est pas entachée d'une contre-proposition, nous allons voter sur cette proposition par oui ou non. Les membres de notre Assemblée qui sont en faveur de la proposition du Parti libéral radical le manifestent en levant la main. Avis contraire. Par 33 voix contre 12, vous avez rejeté la proposition du PLR. Article 31, deuxième alinéa, inchangé. Discussion ouverte. Opposition acceptée. Troisième alinéa. Rapporteur de la commission, M. Gury.
En première lecture, nous avons accepté le texte suivant. L'école publique ne doit pas porter atteinte à la liberté de pensée, de conscience et de religion. La commission vous propose un texte à la forme positive. L'école publique respecte la liberté de pensée, de conscience et de religion. Elle n'a en rien altéré le sens de la phrase adoptée en première lecture.
Discussion ouverte. Opposition acceptée. Article 32, premier alinéa. Discussion. Opposition acceptée. Deuxième alinéa, la commission nous propose de le supprimer. Rapporteur de la commission, M. Gury.
C'est tout à fait logiquement que nous vous demandons de supprimer l'alinéa 2 puisque nous venons de l'inscrire comme deuxième alinéa de l'article 31.
Discussion. Opposition acceptée. Troisième alinéa. Opposition acceptée. Quatrième alinéa. Accepté. Cinquième alinéa. Accepté. Article 33. Discussion. Opposition. Accepté. Article 34. Opposition. Accepté. Article 35. Premier et deuxième alinéa. Discussion. Opposition. Accepté. Article 36. Accepté. Article 37, premier et deuxième alinéa. Accepté. Article 38, premier et deuxième alinéa. Accepté. Septième section, la culture et l'éducation des adultes. Article 39, premier, deuxième et troisième alinéa. Accepté. Article 40, accepté. Nous passons maintenant au chapitre 4, deuxième section, les droits politiques. Article 59, rapporteur de la commission, M. Vauclair. Tout d'abord, le premier alinéa, discussion. Opposition acceptée. Article 1 bis, M. Vauclair.
Monsieur le Président, Madame, Messieurs. Le rapport des trois experts mandatés par la Constituante relevait le fait que les électeurs de district, qui étaient cités à l'article 63, n'étaient pas définis dans le corps de la Constitution. Donnant suite à cette remarque justifiée, la Commission vous propose le libellé suivant. Sont électeurs de district tout homme et toute femme possédant la citoyenneté suisse, âgés de 18 ans au moins et domiciliés dans le district. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une formulation symétrique à celle retenue pour définir l'électeur en matière cantonale et en matière communale. Comme pour ces deux domaines d'ailleurs, la Commission n'a pas jugé opportun de retenir un délai d'établissement.
La discussion est ouverte. Opposition acceptée. Deuxième alinéa, opposition accepté. Troisième alinéa. Opposition. Accepté. Article 59 bis, rapporteur de la commission, M. Saucy.
Monsieur le Président, Madame, Messieurs les députés, au cours de sa séance d'hier, la commission 3 a décidé de retirer de l'ordre du jour de la présente séance l'article 59 bis et de le reporter à la séance de la semaine prochaine pour les raisons très brièvement évoquées ci-après. Le 6 janvier dernier, le président de la commission 3 a reçu un appel téléphonique de M. Roy, observateur et membre du comité de la JIE. Au cours de cet entretien téléphonique, M. Roy a souhaité que la commission 3 entende encore les membres de la JIE. Le président de la commission a accepté cette suggestion et lui a proposé de rencontrer ces messieurs ou ces dames mercredi, donc aujourd'hui après le plénum, en l'assurant que ce point serait retiré de l'ordre du jour. Malgré les sentiments que l'on peut avoir quant au communiqué du 8 janvier 1976, sur lequel je me permettrai de m'exprimer lors des débats, la commission hier a donné suite à cette proposition de son président, M. Roy, d'où le renvoi à huitaine de cet objet.
Nous voilà, mesdames, messieurs, en présence d'une motion d'ordre, à savoir de retirer l'article 59 bis de l'ordre du jour. La discussion est ouverte sur le contenu de la motion d'ordre. La discussion est close. Nous allons passer aux voix. Les membres de notre assemblée qui sont en faveur de la motion d'ordre le manifestent en levant la main. Avis contraire. Article 60, rapporteur de la majorité, M. Varin.
Sur la minorité qui s'exprime.
Vous avez parfaitement raison, rapporteur de la minorité, Monsieur Vifian.
Monsieur le Président, Madame et Messieurs, en ce qui concerne l'octroi de droits politiques aux étrangers, le groupe libéral radical a choisi d'en revenir à la solution du POA, car il estime qu'une formulation si large que celle préconisée par la majorité de la Commission, qui donne pratiquement aux 10 étrangers, ne jouons pas avec les mots, le droit de vote et le droit d'éligibilité, et ce en matière communale et cantonale, ne correspond pas à une véritable volonté populaire. Et ce n'est pas sombrer dans l'électoralisme, pour reprendre une expression favorite de M. Varin, que de tenir compte de l'avis de la grande majorité du souverain. C'est faire œuvre de démocrate, être logique avec soi-même et fidèle à son mandat, qui est de représenter et non d'imposer. Ce thème des droits politiques aux étrangers nous a valu en première lecture un débat fleuve. D'aucuns ont mentionné la réponse du peuple jurassien aux initiatives xénophobes comme justification d'un large octroi aux étrangers de droits politiques. Sans entrer dans le détail, je dirais que ça n'est pas un argument, mais une argutie. D'autres se sont souciés de l'opinion des journaux tessinois et italiens, voire américains. D'autres, enfin, ont appelé à la rescousse la religion et les grands principes. Pour nous, innovation ne rime pas avec surenchère et justice avec crédulité. Par ailleurs, la proposition que nous vous faisons, le texte du POA, n'est pas un retrait par rapport à ce qui existe dans d'autres cantons, au contraire. L'article 60 que nous vous proposons aurait donc la teneur suivante. Les communes peuvent accorder en matière communale la qualité d'électeur aux étrangers âgés de 18 ans au moins s'ils sont établis dans le canton depuis 5 ans et dans la commune depuis 2 ans au moins. Il présente ainsi formulé de nombreux avantages. Large place à l'autonomie communale, participation effective de l'étranger, situation précise et conforme aux possibilités laissées par le droit fédéral, susceptibilité ménagée, etc. Mais tout ou presque a été dit sur ce sujet lors de la première lecture. Nous laisserons donc le dernier mot à Maître Saucy, qui déclarait à propos de cet article 60, défendant une proposition minoritaire, « On parle d'injustice sans la démontrer, ou de volonté de faire du neuf, sans en prouver le bien fondé. »
Rapporteur de la majorité, Monsieur Varin.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Monsieur Vifian n'a pas apporté d'éléments nouveaux au débat. Il s'est contenté de faire un résumé du procès-verbal de la première lecture. Donc, je crois que, effectivement, tout a été dit en première lecture, et je constate que c'est après un long et pénible débat que nous sommes arrivés à un consensus et à la proposition suivante, la loi définit et règle le droit de vote et les autres droits politiques des étrangers. Aujourd'hui, la majorité de la Commission vous propose ce texte. Tout a été dit, je crois, et je ne me bornerai qu'à analyser la nouvelle proposition que nous fait la minorité. Je constate qu'elle exclut le vote en matière cantonale, ce qui est regrettable étant donné que je ne comprends pas la dissociation qui peut se faire entre un vote communal et un vote cantonal, mis à part la souveraineté, entre guillemets, la souveraineté nationale. De plus, on va confier aux communes le soin d'accorder ou de refuser le mini-droit prévu par la minorité de la Commission. On nous parle de l'autonomie communale. Je crois que cette autonomie communale a d'autres occasions de se faire valoir que dans la limitation des droits politiques. Pensons aux sentiments qui vont animer les électeurs des communes lors des dizaines de votes qui devront avoir lieu. Certains seront motivés par des querelles d'usine, par une altercation dans la rue, par le bruit des enfants et des adultes. Pour d'autres, ce sera peut-être de savants calculs d'apothicaires sur le renversement éventuel d'une majorité. Ces exemples sont de bas étage, je le sais, mais on les entend souvent. Quant à l'argument de M. Vifian qui dit qu'il a l'impression qu'il parle au nom de la majorité, ben je crois qu'il n'y a jamais eu de vote organisé sur ce problème, sinon les votes des initiatives Schwarzenbach, et je crois que le Jura ont réservé le sort que ces initiatives méritaient. Donc, je vous demande d'éviter tous ces votes successifs qui vont se passer dans les communes et de voter le texte de la majorité tel que je l'ai décrit tout à l'heure.
La discussion est ouverte. Monsieur Béglin.
Je prends la parole pour deux petites rectifications. Monsieur Vifian a dit que l'article 59 bis adopté en première lecture impliquait l'octroi du droit de vote, du droit d'être élu. Je tiens à préciser qu'il n'en est rien. Oui, 60, pardon. Je tiens à préciser qu'il n'en est rien. Nous avons, par cet article 60, renvoyé cette question à la loi. En ce qui concerne toute l'organisation de ce vote, l'énumération des matières dans lesquelles les étrangers pourraient voter, il n'a jamais été question, je tiens à le préciser, du droit d'être élu. Deuxième point, je tiens à préciser également que l'article que nous avons accepté en première lecture, tel qu'il est rédigé, n'empêchera pas du tout la loi d'instituer le droit de vote facultatif en matière communale, c'est-à-dire de laisser à chaque commune le soin de décider si oui ou non on vote en matière communale. Je suis contre ce système, je tiens à vous le dire, mais l'article 60 ne l'exclut pas pour le moment.
Discussion toujours ouverte. Discussion n'est plus demandée. Minorité, M. Vifian.
Comme réponse aux deux orateurs, j'aimerais dire premièrement, M. Varin, que ou il n'a pas saisi ce que j'ai dit, ou il ne l'a pas écouté attentivement. Les arguments que j'ai donnés à la fin de mon intervention sont des arguments nouveaux qui correspondent au nouveau texte que nous proposons. À M. Béglin, je répondrai que si on ne veut pas donner le droit de vote et le droit d'éligibilité en matière cantonale et communale, il n'est qu'à le préciser, mais en tout cas la formule telle qu'elle est là ouvre cette possibilité. Je vous prie de lire le texte.
La majorité désire-t-elle s'exprimer ?
Non.
Nous allons donc passer aux voix et opposer ces deux propositions. Les membres de notre assemblée qui sont en faveur de la proposition de la minorité le manifestent en levant la main. Les membres de notre assemblée qui sont en faveur de la proposition de la majorité le manifestent en levant la main. Par 32 voix contre 13, vous avez accepté la proposition de la majorité. Article 61. Le rapporteur de la commission, monsieur... Non. Discussion. Opposition. Acceptée. Monsieur Soucy.
Monsieur le Président, Madame, Messieurs les députés, ce n'est pas une proposition de commission, mais en réexaminant hier soir le chapitre que nous étudions maintenant, il m'est apparu que l'article 61, tel qu'il est rédigé, devrait suivre immédiatement l'article 59. Pour une raison extrêmement simple et logique, l'article 59 définit qui est électeur et l'article 61 définit ce que cela implique. Alors que les articles 59 bis et 60, et quelle que soit la teneur de l'article 59 bis que nous arrêterons la semaine prochaine, constituent des renvois à la loi sur des problèmes particuliers. Je demanderai donc à l'Assemblée de modifier l'emplacement du 61 pour qu'il suive immédiatement l'article 59.
Nous voilà en présence d'une proposition. La discussion est ouverte sur cette proposition d'emplacement qui n'a à voir qu'à la systématique. La discussion n'est pas demandée, nous allons passer aux voix. Les membres de notre Assemblée qui sont en faveur de la proposition de M. Saucy le manifestent en levant la main. Il y a des avis contraires ? Non. Pas d'avis contraire. Ouh. Ah. Un avis contraire. Article 62, la proposition de la commission est de le supprimer. Discussion. Opposition. Accepté. Article 63, la commission nous propose de le renvoyer. Ce qu'un membre de notre assemblée désire le traiter maintenant. Ça n'est pas le cas, nous passons à l'article 64, premier alinéa, discussion, opposition, accepté, deuxième alinéa, accepté, troisième alinéa, rapporteur de la commission, Monsieur Saucy.
Monsieur le Président, Madame, Messieurs les députés, j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière à l'article 64, premier alinéa, non pas pour modifier ce qui a été dit en première lecture, mais pour le redire encore, parce que ce point fait l'objet d'un nouveau débat en commission. À la lecture d'un rapport d'experts, un commissaire a demandé s'il ne serait pas souhaitable de revenir sur la possibilité de déposer des initiatives formulées, donc des initiatives rédigées de toutes pièces. Et la commission finalement est à l'unanimité à confirmer le système adopté en première lecture, donc de ne retenir que l'initiative formulée en termes généraux, ceci pour entrer ou pour pouvoir entrer dans le système de l'initiative unitaire sur lequel nous nous sommes longuement expliqués en première lecture. Mais je tiens à redire ici qu'une initiative peut être formulée en termes généraux sans être du tout imprécise, que l'on peut fort bien de manière très claire et très nette, dire exactement ce que l'on veut changer, même si l'on reste dans des termes généraux, dans le système de l'initiative déposée en termes généraux. La seule distinction qu'il faut faire, elle est importante, j'en conviens, mais c'est le prix qu'il faut payer pour entrer dans le système de l'initiative unitaire, c'est que dans tous les cas, c'est le Parlement et lui seul, sous réserve des droits du peuple, bien entendu, qui décidera où sera classé, soit dans la loi, soit dans la Constitution, le résultat des débats sur l'initiative. Voilà, je tenais encore à apporter cette précision. En ce qui concerne l'alinéa 3, il appartiendrait, je pense, tout d'abord à M. Varin de présenter le point de vue de la minorité, mais on ne va pas compliquer les choses. Nous proposons à la majorité de la Commission de maintenir le texte des alinéas 3 et 5, qui pour nous vont de pair. Nous ne voulons pas de la suppression du contre-projet. Pour quelles raisons ? Je l'ai également déjà dit de manière très longue en première lecture. Je rappelle simplement ici brièvement quelques avantages. Tout d'abord, le contre-projet n'est pas obligatoire. Le Parlement peut l'opposer. Il n'y a donc pas d'obligation pour apporter un contre-projet. Deuxièmement, le système du contre-projet permet sans aucun doute d'améliorer une initiative qui serait mal rédigée, même si c'est en termes généraux. Troisièmement, et cela me paraît très important, le contre-projet donne à l'initiative son véritable aspect dynamique, car il fait que l'initiative aboutit le plus souvent, si ce n'est dans tous les cas, en tout cas à une réforme. Et enfin, le contre-projet évite la multiplication des votes populaires, car l'on peut penser qu'une initiative même rejetée par le peuple serait reprise, peut-être sous une forme atténuée, sous la forme d'une motion parlementaire. Nous prions donc, nous vous invitons à maintenir le choix que vous avez fait en première lecture, étant bien entendu que nous sommes partisans de l'alinéa 5 qui corrige la faiblesse du système actuel, puisqu'en cas d'acceptation à la fois de l'initiative et du contre-projet, celui des deux projets qui auraient remporté ou rencontré le plus de voix serait dans tous les cas accepté.
Discussion est ouverte à l'article 64, troisième alinéa. Opposition. 64, troisième alinéa. Le président de la commission a sauté à pied joint sur l'article 65, cinquième alinéa. Opposition. Accepté. Quatrième alinéa. Accepté. Article 65, premier alinéa. Accepté. Deuxième alinéa. Accepté. Troisième alinéa, rapporteur de la minorité, M. Varin.
L'idée émise par le projet de l'Ordre des avocats de pouvoir voter simultanément oui à une initiative et à son contre-projet a été en général bien accueillie. À première vue, cette idée paraissait effectivement séduisante. En réalité, pour la minorité, elle est néfaste au droit d'initiative. Examinons le problème. Le défenseur d'une initiative acceptera automatiquement le contre-projet, évitant en cela la politique du tout ou rien. Le défenseur du contre-projet, en revanche, et c'est logique, refusera l'initiative. Ainsi, toute initiative flanquée d'un contre-projet sera mathématiquement rejetée. De plus, tactiquement, l'initiateur aura tendance à exagérer sa revendication lorsqu'il sait qu'un contre-projet va rogner ses prétentions premières. L'État, aussi bien que l'initiateur, se passerait volontiers de cette surenchère. Maître Saucy avançait deux arguments. Il a parlé que le contre-projet donnait un côté dynamique à l'initiative. Ce côté dynamique pourra toujours être pris par les parlementaires. Si une initiative est refusée et qu'elle a tout de même créé des problèmes ou fait penser à des réalisations à faire, eh bien, à ce moment-là, le Parlement pourra toujours légiférer. D'autre part, on parle des votes populaires. Je crois qu'en Suisse, nous avons l'habitude de voter et il sera très possible d'organiser ces votes lors de votes fédéraux, puisqu'il y en a tout de même un certain nombre. Donc, pour conserver à l'initiative son caractère de droit populaire, nous vous demandons de laisser le citoyen se prononcer par oui ou non sur une initiative et ne pas accepter l'alinéa 3. Donc, de refuser l'idée du contre-projet. Nous vous proposons la suppression pure et simple de l'alinéa 3.
Rapporteur de la majorité, Monsieur Saucy. Le président de la commission estime s'être suffisamment exprimé. La discussion est ouverte. La discussion n'est pas demandée. Et nous allons donc passer aux voix et opposer ces deux propositions. Les membres de notre assemblée qui sont en faveur de la proposition de la minorité le manifestent en levant la main. Les membres de notre assemblée qui sont en faveur de la proposition de la majorité le manifestent en levant la main. Par 28 voix contre 16, vous avez accepté la proposition de la majorité. Quatrième alinéa, discussion, opposition, accepté. Cinquième alinéa, je pense que la proposition, d'ailleurs, c'est indiqué, de la minorité tombe. Discussion, opposition, Monsieur Stadelmann.
Monsieur le Président, Madame, Messieurs, le groupe socialiste a une proposition à vous faire à l'alinéa 5 un alinéa qui devrait être rédigé avec le contenu suivant. Le peuple se prononce d'abord sur l'initiative. Selon le contenu de l'alinéa qui nous est proposé par la commission, Bernard Varin y a fait allusion tout à l'heure, il y aura simultanéité de vote sur l'initiative et le contre-projet. Cette simultanéité, nous la connaissons déjà aujourd'hui. À plusieurs reprises, on a pu observer dans les cas où l'initiative et le contre-projet étaient soumis ensemble au verdict populaire, eh bien que l'on enregistrait dans plusieurs cas à la fois le rejet de l'initiative et à la fois le rejet du contre-projet. À l'origine de ces doubles rejets, il y a sans aucun doute les modalités de vote, à savoir que, contrairement, c'est vrai, à ce qu'on préconise aujourd'hui, savoir que sur le plan fédéral actuel et cantonal, le double oui n'est pas permis. Un bulletin qui porte un oui à l'initiative et un oui au contre-projet est considéré comme nul. En revanche, et cela c'est parfaitement logique, en revanche, un bulletin qui porte un double non, un citoyen qui refuse l'initiative et qui refuse le contre-projet, c'est parfaitement logique, eh bien, ce bulletin-là, il est considéré comme valable. Alors, avec de telles modalités, favorise les partisans du rejet, soit du rejet de l'initiative, soit du rejet du contre-projet, soit du rejet des deux. En effet, parmi ceux qui repoussent l'initiative, on trouve les partisans du contre-projet. Pour donner du poids à leur contre-projet, ils ont avantage à refuser l'initiative. D'ailleurs, s'ils sont partisans du contre-projet, c'est qu'ils n'acceptent pas l'initiative et ils votent non à l'initiative. Et on trouve aussi, parmi les adversaires de l'initiative, ceux qui sont à la fois opposés à l'initiative et opposés au contre-projet. En ce qui concerne le projet, c'est pareil. On trouve parmi les non-contre-projets les partisans de l'initiative. Les gens qui disent oui à l'initiative, non au contre-projet, parce qu'ils ne peuvent pas dire oui actuellement à ce contre-projet. Sans ça, leur bulletin est nul. Et on trouve bien sûr aussi parmi les non au contre-projet ceux qui refusent les deux objets. Donc il y a, dans le système actuel, et on l'observe, privilège en faveur des non qui sont exprimés dans les urnes. La Commission nous propose aujourd'hui un remède en autorisant le double oui. Le oui à l'initiative, le oui au contre-projet. Tout comme l'a déjà dit tout à l'heure Bernard Varin, cette disposition peut paraître séduisante. Toutefois, elle souffre, à notre avis, d'un sérieux défaut, celui de privilégier cette fois mathématiquement le contre-projet lors de votes simultanés sur l'initiative et le contre-projet. Que se passera-t-il en effet dans la pratique? Je crois qu'il convient de s'arrêter un instant à la pratique en la matière. Eh bien, les partisans de l'initiative voteront naturellement oui à l'initiative, mais comme on leur accorde la possibilité de dire oui au contre-projet, c'est-à-dire d'accomplir éventuellement un petit pas, de préserver tout de même l'avenir, eh bien la plupart d'entre eux, dans le système que nous préconisons, seront tentés de dire oui au contre-projet. Alors voilà déjà une catégorie de citoyens qui dira oui au contre-projet, ce sont les partisans de l'initiative, fort tentés de dire oui au contre-projet. On trouvera naturellement parmi les gens favorables au contre-projet ceux qui, dans la campagne électorale, l'ont soutenu. Donc on aura parmi les oui au contre-projet deux catégories de citoyens, les partisans de l'initiative et naturellement les partisans du contre-projet. En revanche, l'initiative, les partisans d'initiative devront eux affronter les non des partisans du contre-projet et puis les non de ceux qui ne veulent rien du tout. Et l'initiative, là, sera véritablement prétéritée. Et à notre avis, avec le vote simultané, même si on a l'autorisation du double oui, eh bien, le choix politique n'est pas clair. Il n'est peut-être même pas très, finalement, politiquement très honnête face aux citoyens. Et cela provient uniquement du fait de la simultanéité. Et le seul remède, la seule possibilité d'aboutir à un choix clair, c'est de procéder, à notre avis, en deux temps, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens se prononcent d'abord sur l'initiative, et puis ensuite, selon le résultat de l'initiative, si elle est rejetée, sur un éventuel contre-projet. Cette possibilité de procéder en deux temps, bien sûr, présente un désavantage. On dira qu'il faudra voter peut-être deux fois. C'est vrai, mais on sait qu'on peut parfaitement, d'après le calendrier politique, organiser des votations sans qu'il y ait trop de gros problèmes, de dérangement des citoyennes et des citoyens. Ce vote en deux temps présente aussi un avantage politique, à savoir qu'une initiative sera présentée au peuple, dans la mesure où elle n'est pas retirée, sera présentée au peuple, et puis rien n'empêchera, au moment où on discutera de l'initiative à présenter au peuple, rien n'empêchera le Parlement, le gouvernement, d'avoir déjà passé à l'élaboration d'un projet, de contre-projet, de dire voilà, en cas de rejet d'initiative, jusqu'où nous pourrions aller, ce que nous pourrions nous faire, dans quelle mesure nous pourrions répondre aux revendications formulées, etc. Mais nous vous recommandons le rejet de l'initiative. Et ensuite, selon l'accueil réservé à l'initiative, le Parlement, les autorités politiques compétentes pourront moduler leur contre-projet. Si l'initiative est repoussée à une faible majorité, bien, politiquement, on ira peut-être plus loin. Si elle est repoussée nettement, il n'y aura peut-être même plus besoin de contre-projet. Il nous semble que sur le plan de la rationalité politique, sur le plan aussi de la clarté politique, il serait heureux de renoncer à cette simultanéité de vote qui, mathématiquement, avantage, dans le cas que l'on nous soumet, le contre-projet au préjudice de l'initiative, et de soutenir la proposition, pour ces raisons de clarté politique, de soutenir la proposition de procéder d'abord au vote sur l'initiative. Je conviens que cette proposition arrive un peu en dernière minute. C'est le fruit des circonstances. Nous nous sommes battus d'abord, nous socialistes, pour qu'il n'y ait pas de contre-projet. Nous enregistrons aujourd'hui le verdict. Et nous sommes, dans notre lignée politique, contraints de vous faire aujourd'hui cette proposition, mais qui, encore une fois, n'est pas dirigée contre le contre-projet, mais c'est simplement pour des raisons de clarté politique. Si la commission, qui a déjà décidé le renvoi de deux articles, décidait d'étudier la proposition que nous vous faisons aujourd'hui, le groupe socialiste ne demanderait pas un vote, parce que ce serait peut-être bon quand même que l'on étudie cette proposition socialiste de manière un peu plus approfondie qu'on peut le faire maintenant dans les minutes qui suivent le vote. Et pour cette raison, dans la mesure où la commission serait d'accord de l'examiner pour nous la proposer la semaine prochaine, eh bien, nous serions parfaitement d'accord avec ce choix-là et puis nous pourrions voter alors la semaine prochaine.
Voilà, le président de la commission, est-ce qu'il est d'accord de rendre ça pour étude, Monsieur Soucy?
Monsieur le Président, Madame, Messieurs les députés, je m'oppose à titre personnel, puisque je ne peux pas consulter la commission, à la motion d'ordre de Monsieur Stadelmann et je m'exprimerai ensuite sur le fond du problème. Je m'y oppose parce que nous avons discuté de ce problème en commission de manière assez complète, je crois, puisque les commissaires socialistes avaient même déposé une proposition éventuelle allant parfaitement dans le sens que vous préconisez aujourd'hui, Monsieur Stadelmann, et qu'à la suite du débat de la commission, ils l'ont retiré pour ne retenir que la proposition de suppression des alinéas 3 et 5. Cet objet a donc été déjà traité en commission. Je crois que la religion des commissaires est faite sur ce point, tant d'un côté que de l'autre, et je vous invite par conséquent à rejeter la motion d'ordre de M. Stadelmann. Si c'est le cas, je m'exprimerai sur le fond de la proposition tout à l'heure.
Voilà, la discussion est toujours ouverte sur cette motion d'ordre. Monsieur Stadelmann.
Ça n'est peut-être pas dans mes habitudes, mais je voudrais essayer d'amener un petit peu de sérénité dans le débat. Je comprends parfaitement l'attitude du président de la commission qui évoque l'attitude de nos deux commissaires socialistes. Mais c'est normal que nos deux commissaires socialistes n'aient pas entamé le débat sur cette proposition éventuelle, puisqu'il y avait d'abord une proposition principale et qu'ils désiraient, eux, vraiment engager le débat sur cette proposition principale, contre-projet ou non contre-projet. Si nous avions distribué à l'ouverture de la séance la proposition que je viens de vous faire, ça nous aurait pas paru sérieux de la part du groupe socialiste qui, d'une part, demande la suppression du contre-projet, puis d'autre part, demande qu'on fasse un vote éventuel en deux temps. Et je pense qu'il y a de nouveaux éléments, maintenant de nouvelles circonstances qui surviennent, et je proposerai qu'on fasse une... Hein, je maintiens ma motion d'ordre, tout à l'heure mon souhait, je transforme en motion d'ordre, à savoir que cette proposition socialiste soit reprise par la commission, et je demanderai une suspension de séance de 5 minutes afin que le président puisse consulter sa commission afin de reprendre éventuellement l'étude de notre proposition au sein de sa commission.
Voilà, madame, messieurs, je joins la demande de suspension de séance à la pause habituelle et nous reprendrons nos travaux à 15h30. Messieurs, nous reprenons nos délibérations. Nous étions en présence d'une motion d'ordre, à savoir de renvoyer l'analyse de l'alinéa 5 du 60e article, du 65e article à la commission. La discussion est toujours ouverte sur cette motion d'ordre. Monsieur Saucy.
Monsieur le Président, Madame, Messieurs les députés, la majorité de la commission vous propose de rejeter la motion d'ordre, essentiellement pour le fait que nous avons déjà discuté de cette proposition en commission où elle avait été émise puis retirée. Je vais peut-être aller un peu plus loin pour permettre, cas échéant, de régler la totalité de ce problème. J'avais déjà dit lors de la première lecture qu'un problème était délicat dans l'initiative unitaire, parce qu'il appartiendra au Parlement de transcrire dans la règle générale l'initiative en termes légaux, et cela sans trahir la volonté des initiateurs. Et je répète ici, si cela peut servir, ce que j'avais dit à l'époque, nous imaginons que la procédure instituera à ce stade un contact obligatoire entre les porte-paroles des initiateurs et le Parlement, car nous ne voyons pas d'autres solutions pour qu'il y ait véritablement respect de la volonté des initiateurs, mais cela sera un problème qui devrait être réglé par la voie législative. Par ailleurs, je constate que le texte qui est arrêté, c'est-à-dire les 4 premières alinéas ou les 5 premières alinéas, n'interdisent pas la solution préconisée par M. Stadelmann tout à l'heure, mais ne l'érigent pas en principe. Et je crois que la loi pourra toujours, dans un cas où cela serait justifié, mais qui à mes yeux ne pourrait être qu'exceptionnel, que le peuple se prononce en deux temps. Voilà, je reviendrai le cas échéant sur le fond du problème tout à l'heure, après que l'Assemblée soit prononcée sur la motion d'ordre.
Discussion toujours ouverte sur la motion d'ordre. M. Stadelmann.
Monsieur le Président, Madame, Messieurs, si j'ai bien compris, Monsieur Saucy, le Président de la Commission, l'alinéa 5 n'implique pas un vote simultané automatique. C'est comme ça qu'on peut interpréter votre exégèse de cet alinéa 5. Alors, si véritablement on est aussi, l'Assemblée rejoint cette opinion de Maître Saucy, du Président, à savoir que dans son contenu, dans son libellé actuel, il n'y a pas automatisme, il n'y a pas obligation, dès lors qu'il y a un contre-projet, de présenter en même temps le contre-projet et l'initiative, si on admet que ça n'est pas automatique, ce vote simultané, que de cas en cas, on pourra discuter. Je serai prêt à retirer à la fois ma motion d'ordre et puis naturellement aussi la proposition que j'ai faite, mais je ne suis pas tout à fait convaincu de l'argumentation de Maître Saucy, parce qu'on a eu un même problème à la commission 4 où, selon le rapport des experts, on avait un libellé pour l'article 123 relatif à la révision de la Constitution, où on parlait à la fois de la révision totale, où on parlait d'un additif constitutionnel, et là Les experts, si je vous renvoie à leur rapport, ont attiré notre attention, oui. Ah. ont attiré notre attention sur l'ambiguïté de ce texte, et je me demande si là, on ne se trouve pas non plus en présence d'une ambiguïté. À savoir que si après coup, on ne pourrait pas déduire de cet article que véritablement, il doit y avoir simultanéité automatique. Mais si vraiment si l'Assemblée rejoint la thèse de Maître Saucy, s'il n'y a pas d'autre intervention dans ce sens, alors là, je retirerai la motion d'ordre et ma proposition pour me rallier à la proposition de la Commission, compte tenu de l'interprétation donnée par son président.
Voilà, je crois qu'il faut considérer ce retrait, M. Schadenmann, comme un retrait conditionnel. Si personne ne demande ou ne propose une autre interprétation, à savoir simultanéité dans le vote. Est-ce qu'un membre de notre Assemblée veut s'exprimer pour donner une autre interprétation que celle fournie par le président de la Commission au cinquième alinéa de l'article 65, à savoir obligation de la simultanéité dans le vote? Ça n'est pas le cas, donc je considère la proposition de M. Stadelmann comme retirée et je demande à notre Assemblée de s'exprimer sur le cinquième alinéa tel que proposé par la majorité. Y a-t-il des avis contraires? Ça n'est pas le cas. Accepté. Article 66. Monsieur Huglet, rapporteur de la Commission.
Monsieur le Président, Madame, Messieurs, en première lecture, nous avons adopté un article 128. Vous me direz que ça n'a rien à voir avec les dispositions de la Commission 3, vous en comprendrez la raison tout à l'heure, qui précisait que la révision totale de la Constitution est proposée au peuple par voie d'initiative, populaire ou par le Parlement, et à son deuxième alinéa, un additif constitutionnel en règle les modalités. Ce texte ne précisait pas l'ordre des votes ou éventuellement leur simultanéité. Cette lacune, qui a d'ailleurs été relevée par les experts, a été reconnue par la Commission 4, qui a décidé de proposer à la Commission 3 de modifier, pour éviter tout équivoque, le libellé de la lettre A de l'article 66 traitant du référendum obligatoire. Cette modification vous a été transmise au début de la séance. Je vous la répète, le principe de la révision de la Constitution, c'est ce qui figurait dans le texte arrêté en première lecture, et simultanément l'additif constitutionnel qui en règle les modalités. Le principe de révision totale de la Constitution, pardon, et simultanément l'additif constitutionnel qui en règle les modalités. Il apparaît à la Commission 4, comme à la Commission 3 d'ailleurs, qu'il est indiqué que le peuple se prononce simultanément, d'une part sur le principe de révision totale, d'autre part sur les modalités de l'additif constitutionnel. On évitera ainsi toute surprise et le texte sera excessivement clair. Pour compléter cette adjonction proposée à l'article 66, lettre A, la Commission 4 proposera très certainement en temps et lieu à l'Assemblée une deuxième modification portant elle sur la teneur de l'article 128. L'article 128 ne précise effectivement pas ce qui pourrait se passer en cas d'acceptation du principe de la révision totale de la Constitution et de refus des modalités précisées dans l'additif constitutionnel. Il est bien évident que si le corps électoral refuse le principe de révision totale, il n'est plus question de discuter d'un additif, mais on n'était pas au clair sur la teneur de l'article 128 au cas où le peuple accepte le principe et refuse l'additif précisant les modalités, de quelle manière il aurait fallu statuer. C'est pour ça que la Commission 4 vraisemblablement vous proposera en temps et lieu une adjonction à l'article 128 qui aurait la teneur suivante. Si le peuple rejette cet additif, le Parlement lui soumet un nouveau projet dans un délai d'un an. Donc, en modifiant la lettre A de l'article 66 pour préciser que l'additif constitutionnel passe au vote simultanément avec le principe de révision totale de la Constitution, et en ajoutant un troisième alinéa à l'article 128, nous pensons ainsi avoir résolu le problème et lever tout équivoque. C'est pour ça qu'au nom des commissions 3 et 4, je vous invite à accepter la modification proposée à la lettre A de l'article 66.
La discussion est ouverte à la lettre A. Monsieur Moritz, au nom de la commission 4.
Monsieur le Président, Madame, Messieurs, je ne peux qu'appuyer les termes de Monsieur Huglet, rapporteur de la commission 3. Ce qu'il a dit est exact, mais j'aimerais tout de même relever qu'il n'y a pas eu de lacune. C'est en pleine conscience qu'en première lecture, la commission 4 vous a proposé la teneur de l'article 128, à savoir la question de l'additif constitutionnel, telle qu'elle a été énoncée. En revanche, je dois relever que lors d'une prochaine séance également, il est possible que la commission 4 doive se mettre en rapport à nouveau avec la commission 3 en ce qui concerne une autre disposition. C'est celle de l'article 72, alinéa 1er, littéra A, c'est-à-dire la disposition qui dit que sous réserve des droits du peuple, le Parlement A élabore les dispositions constitutionnelles en cas de révision partielle ou totale de la Constitution. Cette disposition n'est peut-être pas suffisamment claire, attendu qu'il est possible que dans l'additif constitutionnel, les compétences seront données à la constituante et non pas au Parlement de préparer un nouveau projet de constitution. Nous nous réservons donc de faire de nouvelles propositions à ce sujet à la commission 3, propositions qui, je pense, avec l'accord de cette commission, pourront être examinées la semaine prochaine déjà.
Discussion toujours ouverte. La discussion n'est plus demandée. Y a-t-il des oppositions à la proposition des deux commissions, commission 3 et commission 4, concernant la lettre A de l'article 66 ? Accepté. Lettre B. B, C, D et E. Discussion. Opposition. Accepté. Lettre F. Commission. Monsieur Huglet ou Monsieur Comment.
Monsieur le Président, Madame, Messieurs, la commission 3 unanime vous propose à la lettre F de l'article 66 de commencer l'énumération qui est contenue par les traités et de mettre les concordats en deuxième position. La commission fait ainsi sienne la remarque des experts à l'article 73, lettre B, prévoyant qu'on devrait commencer toujours une énumération de ce genre par les traités, car ceux-ci sont d'un niveau plus élevé que les concordats, disent les experts. Effectivement, les différentes définitions qui sont données des uns et des autres dans les commentaires de droit constitutionnel font apparaître la prédominance évidente des traités sur les concordats. Nous vous proposons donc la lettre F dans la teneur suivante, sont soumis au vote populaire, F, les traités, concordats et autres conventions de droit public. Il est évident que si vous acceptez cette modification, elle est également valable pour l'article 67.
Discussion, opposition, accepté. Nous passons maintenant à l'article 67. Premier alinéa, rapporteur de la minorité, puisque là il y a modification, Monsieur Gassman.
Monsieur le Président, Madame, Messieurs, c'est au cours de la séance du 2 septembre que le problème du référendum facultatif a été traité. À cette occasion, Maître Pierre Christ avait rappelé le personnage de Don Quichotte qui n'avait jamais renversé un moulin. Permettez-moi tout de même, durant quelques minutes, de brasser devant vous un peu de vent. L'idée
de donner à un certain nombre de communes la possibilité de lancer un référendum était contenue dans le projet de l'Ordre des avocats. La commission 3, qui a étudié cette question de près, l'a abandonnée à l'unanimité. En séance de plénum, une autre idée a été évoquée, celle de donner la possibilité à une minorité du Parlement de lancer également un référendum. Et c'est à cette occasion que nous nous étions lancés dans des calculs d'épicier. Nous nous étions offerts des quarts, des tiers, des deux cinquièmes de Parlement. Personne n'avait quand même poussé la plaisanterie jusqu'à offrir un demi. C'est Maître Christ qui avait repris l'idée de la minorité à accorder, le droit à accorder aux communes de lancer un référendum, et M. Éthique avait alors proposé le renvoi à la commission pour étudier cette question qui avait été reprise à l'occasion de notre séance de Seigne-l'Échier. Et au sein de la commission en deuxième lecture, une faible minorité s'était finalement rallié à cette idée et avait également proposé d'accorder le droit de référendum à 8 communes. Cette attitude avait été défendue par Maître Combe. Les arguments avancés, je les reprends simplement en style télégraphique. On nous disait que c'était là un moyen pour les régions de manifester leur volonté en certaines occasions. C'était vouloir respecter l'autonomie des communes. C'était vouloir aussi créer un certain parallélisme entre le droit d'initiative accordé aux communes et le droit de référendum. C'était faire appel à la nécessaire solidarité des communes dans certains cas. Monsieur Charles Moritz était intervenu également pour défendre les régions, prétendait que c'était étendre les droits populaire. Et je voudrais ici citer à nouveau Maître Christ. Je profite de l'occasion qu'il n'est pas là pour en faire tout provisoirement d'ailleurs mon père spirituel aujourd'hui, qui disait déjà « Notre projet de constitution renforce très sérieusement les droits du peuple et de l'autonomie des communes par rapport à toutes les autres constitutions. » Monsieur Œuvray aussi était intervenu pour lui aussi parler des régions, de leur défense et notamment de la défense des communes contre les appétits financiers d'un État trop centralisateur peut-être. Même attitude de la part de Monsieur Jaudry, qui dans son fief avait défendu avec beaucoup de conviction les Franches-Montagnes et le Clos du Doubs. Je voudrais simplement tirer les constatations suivantes. L'argumentation essentielle pour justifier le droit d'accorder aux communes la possibilité de lancer un référendum repose, semble-t-il, sur la volonté de défense, de mieux assurer la défense des régions. Or, en fait, par ce biais, nous n'accordons aucun droit nouveau aux communes, nous leur donnons simplement l'occasion, la possibilité, nous leur mettons entre leurs mains un outil d'opposition, comme l'avait d'ailleurs déjà relevé le président de la commission, Maître Saucy, nous leur donnons l'occasion de freiner peut-être l'État, mais nous ne leur donnons en fait aucune possibilité supplémentaire en leur faveur. L'intérêt, la défense des intérêts régionaux, à notre avis, peut se faire par d'autres moyens. Il faut donner effectivement aux communes, et c'est là notre volonté, c'est bien là notre volonté du côté socialiste, des droits plus étendus, une autonomie plus grande. Il nous faut distribuer, il nous faudra prévoir une meilleure distribution des pouvoirs, véritablement, entre l'État et les communes. C'est là notre conviction. Ce n'est pas en accordant cette possibilité de référendum aux communes que nous allons dans ce sens. Pour nous, véritablement, ce n'est qu'un frein. Et j'y vois aussi un
danger tout de même d'opposition même entre certaines régions, et notamment un danger entre une ville et les communes périphériques, par exemple, à la ville. Il y aura des problèmes à résoudre qui intéresseront la région. Or, il se pourrait qu'on crée artificiellement, par ce moyen, une opposition entre les régions qui entourent une ville et la ville elle-même, pour des questions peut-être financières, alors que le problème à résoudre est d'intérêt vital pour toute la région, pour la ville et les communes qui l'entourent. J'y vois aussi un danger pour l'État tout de même, cet État que nous sommes en train de mettre en place. Nous devons lui permettre de travailler dès le départ dans les meilleures conditions possibles, et il ne faudrait pas que dès le départ aussi les communes faisant peut-être trop usage de ce droit bloquent ou en tout cas freinent la politique de l'État. Une dernière remarque, et personne nous a dit ici finalement comment le problème serait résolu, qui dans la commune, quelle est l'autorité qui dans la commune prendra la décision. Est-ce que ce sera le conseil communal? Est-ce que ce sera le conseil général? Est-ce que ce sera l'assemblée communale ou l'ensemble des citoyens? Ce problème n'est pas réglé, j'en veux bien. Je suis bien d'accord qu'il sera réglé, qu'il devrait être réglé par la loi. Mais à ceux qui, à d'autres occasions, nous demandent ici des précisions, il aurait été intéressant aussi de savoir quelles étaient leurs vues dans ce domaine. Or, nous n'en savons rien. Et M. Montavon, à Seine-Léger, s'était livré à de très savants calculs pour nous démontrer qu'en fait, 24 citoyens pourraient parfaitement, en fait, lancer un référendum. Je voudrais donc vous rappeler... Vous demandez ici peut-être d'examiner encore une fois cette question en vous rappelant qu'il ne s'agit pas du tout pour nous de s'opposer au pouvoir des communes, bien au contraire, que nous leur donnerons, je l'avais déjà dit l'occasion, de prendre davantage de pouvoir, mais à d'autres niveaux et dans d'autres secteurs de l'organisation de l'État. Finalement, nous avons accordé le droit à 2000 électeurs de lancer un référendum. Je crois que là aussi, c'est une facilité suffisamment grande pour que nous renoncions à l'accorder aux communes, comme nous avons d'ailleurs renoncé à l'accorder à la minorité du Parlement. Je vous propose donc de supprimer les mots « ou 8 communes ».
La parole est au rapporteur de la majorité, M. Comand.
Monsieur le Président, Madame, Messieurs, après Don Quichotte, vous voulez bien avoir la patience d'écouter 3 minutes sans chopant ça. La majorité de la Commission vous propose de maintenir cet article tel que vous l'avez adopté en première lecture, c'est-à-dire de permettre non seulement à 2000 électeurs, mais également à 8 communes de mettre en marche cette procédure du référendum facultatif. Je renonce, quant à moi, à développer les arguments qui ont été avancés, M. Gassman l'a fait pour moi, je le remercie, en faveur de cette possibilité accordée à ces 8 communes. Pour résumer, les deux éléments qui me semblaient les deux principaux étaient, le premier, que c'était un moyen quand même suffisant pour les régions de se manifester, même si c'est par une attitude négative, et je crois que, deuxièmement, l'exercice de ce droit n'est pas dangereux du fait que nous avons augmenté le nombre qui était prévu dans le POA de 5 à 8 pour justement éviter des abus dans l'exercice de ce droit. Aussi, au nom de la majorité de la Commission, je vous propose de maintenir cet article tel qu'adopté en première lecture.
La discussion est ouverte. Monsieur Pope.
Monsieur le Président, Madame, Messieurs. Le groupe démocrate chrétien soutient la proposition de la majorité de la Commission et vous demande de maintenir l'octroi du droit de référendum à 8 communes. J'aimerais simplement dire à M. Gassman qu'il ne suffit pas de vanter les droits des communes et de vouloir les restreindre. En politique, comme partout ailleurs, un tien vaut mieux que deux tu auras. Il ne suffit pas de dire qu'on veut élargir les droits des communes sans dire lesquels, pour justifier qu'on en supprime un. Il est bien évident que l'initiative est active et que le référendum a plutôt un rôle passif. Mais même dans ce cas-là, nous pensons qu'il ne s'agit pas de l'enlever systématiquement aux communes. Accorder le droit de référendum à 8 communes, c'est favoriser l'expression d'une volonté régionale possible. Mais ce n'est pas seulement cela, c'est aussi donner la possibilité à 8 communes situées géographiquement dans tous les secteurs du pays de se manifester. Et je crois que dans cette assemblée, on s'est souvent gargarisé de l'autonomie communale. C'est une des manières maintenant de le concrétiser. Quant à savoir s'il faut préciser dans la Constitution qui pourra faire usage de ce droit au nom des communes, nous pensons qu'il serait exagéré de le préciser ici, mais que cette affaire sera réglée par la loi. Et pourquoi pas, la loi ne renverrait-elle pas ce problème aux règlements communaux, qui eux pourraient en toute liberté choisir l'élément politique qui est habilité à prendre une telle décision.
Mesdames, Messieurs, la discussion est toujours ouverte. La discussion n'est plus demandée. Est-ce que le rapporteur de la minorité désire-t-il s'exprimer ? Majorité ? Ça n'est pas le cas. Nous allons donc passer aux voix et opposer proposition de la minorité à celle de la majorité. Les membres de notre Assemblée qui sont en faveur de la proposition de la minorité le manifestent en levant la main. Les membres de notre Assemblée qui sont en faveur de la proposition de la majorité le manifestent en levant la main. Par 27 voix contre 13, vous avez accepté la proposition de la majorité. Lettres A et B, discussion. Opposition, accepté. Lettre C, le rapporteur de la commission, M. Comment, s'est déjà exprimé à ce sujet. Y a-t-il des oppositions ? Accepté. Lettres D à F, opposition. Accepté. Article 68. Discussion. Opposition acceptée. Article 69. Accepté. Article 70. Opposition acceptée. Nous avons ainsi terminé, Mesdames, Messieurs, le pensum de notre session. Je donne rendez-vous à la salle à manger aux présidents des commissions ainsi qu'aux présidents des groupes et aux membres de la commission 3 ainsi qu'aux observateurs ici dans cette salle. La session est levée.